du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence sur le Causse 106.5.
Midi 1. Soyez les bienvenus, Présence Midi, nous sommes en direct et nous sommes très heureux de vous retrouver. Anne, bonjour, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour, Gilles Galpardi.
C'est sous la chaleur qu'on est en direct sur Radio Présence.
Ça va, tout est relatif, en studio il fait bon.
Oui, c'est vrai qu'il fait bon. Dans cette émission, nous irons du côté de Vic en Bigorre, puisqu'à la mi-journée, eh bien, on va parler des tablés de Vic, ce rendez-vous qui a lieu ce week-end avec la grande cuisine. Les auditeurs auront un beau rendez-vous avec la présence de grands chefs.
Exactement, les tablés de Vic, il s'agit d'un festival de gastronomie populaire, ça commence aujourd'hui et ça dure jusqu'à dimanche.
Voilà, 3000 festivaliers sont attendus, on en parlera. Nous irons également du côté de la vallée des Gaves pour découvrir un nouveau lieu de résidence pour les personnes âgées.
Et oui, prendre soin de nos aînés, pour en parler effectivement, nous irons direction Argelès-Gazost pour découvrir ce qu'est un CRT.
Un CRT, voilà, on en parle dans
vous
une...
Vous ne le savez pas,
ben non,
ben vous le saurez dans quelques minutes.
Ben ça tombe bien, je vais écouter. Donc oui.
J'espère, il y a intérêt.
Ah là là, dans cette émission, on ira également dans les Pyrénées, on prendra un peu de fraîcheur et d'altitude avec Anne Lasserre pour le regard des écrivains sur les Pyrénées, et puis on ira également du côté de l'océan, du côté de Bayonne.
Oh,
voilà, pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Laurence et Nathalie Chambon, la responsable de la communication qui sera en duplex avec nous. Voilà pour les grandes lignes.
Elle a bien de la chance d'être directrice de la communication là-bas.
Ben, c'est ce qu'elle nous dira également, hein, qu'elle va se rafraîchir à l'océan.
Mais je n'échangerai pas la Bigorre pour autant.
Bon, ben, voilà, écoutez, on a le gave, nous.
Ben voilà, on a le gave. On y pêche, on ne s'y baigne pas tout à fait.
Bien, après toutes ces considérations géographiques, on va faire un point sur l'actualité régionale avec les titres à la une.
La France a connu hier sa journée la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1947, effaçant le record qui avait été établi la veille mardi selon Météo France. Ce jeudi, les mêmes départements restent en vigilance rouge canicule, la Haute-Garonne, le Lot, le Gers, le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Ces dernières devraient en revanche rejoindre les départements de l'Aveyron et de l'Ariège, classés en vigilance orange dès ce soir. Face à la canicule, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures d'urgence destinées à soutenir les exploitations agricoles touchées par les fortes chaleurs. Les préfets pourront désormais autoriser le fauchage dans les zones concernées par des obligations de débroussaillement liées au risque d'incendie. La centrale nucléaire de Golfech a été mise à l'arrêt en raison de l'alerte rouge canicule. Cette décision préventive a été prise pour ne pas que l'eau rejetée par la centrale n'aggrave la hausse des températures déjà significative dans la Garonne, une manière de protéger la faune et la flore locale. Placée en alerte maximale, la Haute-Garonne renforce ses consignes de sécurité face à la sécheresse persistante. Hier, la préfecture a décrété la vigilance rouge pour les feux de forêt après plusieurs incendies dévastateurs survenus ces derniers jours. À partir de demain, 70 élèves passeront leurs épreuves du brevet dans le monastère de Trie-sur-Baïse. Certes, les températures caniculaires jouent un rôle important dans cette décision, mais ce sont avant tout des travaux sur le réseau électrique du collège qui empêchent le bon déroulement des épreuves. Enfin, après des semaines très mouvementées dans le petit village d'Enac dans le Lot, tous les élus qui siégeaient encore au conseil municipal élu en mars dernier ont présenté leur démission. De nouvelles élections municipales vont être organisées sous 3 mois pour relancer la vie démocratique locale. L'appel à de nouveaux candidats est lancé pour constituer une, voire plusieurs listes.
Merci à Clémence Roux. C'est à 12h30 qu'on va retrouver Clémence pour développer ses titres dans le journal régional.
Radio Présence dans la Haute-Ariège. 92.7.
L'agenda des diocèses, et c'est tous les jours sur Radio Présence. Bonjour Nathalie Chambon.
Bonjour Gilles.
On est aujourd'hui avec vous en duplex depuis Bayonne pour détailler l'agenda béarnais de votre diocèse. Et l'agenda nous amène à côté de Pau, dans le petit village d'Arécy, qui accueillera un événement culturel d'exception ce jeudi à 20h30.
Tout à fait, c'est un concert de musique baroque italienne, donc en l'église Saint-Denis d'Arécy. C'est vraiment un concert qui est entièrement dédié à cette musique baroque. Un petit moment de fraîcheur au cœur de cette canicule dans l'église donc d'Arécy. C'est une libre participation, donc n'hésitez pas à effectivement profiter de ce beau concert produit par le Moment Baroque.
On poursuit avec la présentation du parcours Zaché, c'est par la formation permanente du Béarn à Pau.
Tout à fait, ça aura lieu donc ce même jeudi 25 juin à la maison Saint-François-Xavier de 20h30 à 21h45. C'est une journée de présentation et d'inscription. Venez découvrir ce parcours qui vous permet de mieux connaître la doctrine sociale de l'Église et qui permet de vivre pleinement sa foi dans son quotidien. Petite présentation avant de vous y inscrire pour l'année prochaine.
Et on poursuit avec cette vie de prière et de témoignage pour les vocations. Alors, ça va se passer à Bayonne, mais c'est important d'en parler ce vendredi.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un moment de prière avant de confier aussi l'ordination d'Abel samedi à la cathédrale Sainte-Marie. Donc, vendredi à 18h, messe d'action de grâce présidée par l'évêque Monseigneur Hayet, donc à la cathédrale Sainte-Marie. Ensuite, un repas tiré du sac dans le cloître et des témoignages des deux abbés issus du séminaire, les deux premiers abbés ordonnés, donc l'abbé Paul Ouen et Sange de Fronsu, puis une veillée d'adoration. Toutes les informations sur le site diocèse64.org. Et puis, bien sûr, je vous invite à entourer Abel samedi 27 juin à 10h pour son ordination sacerdotale à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
On poursuit cet agenda avec les grandes tablées. C'est proposé par le Secours catholique et c'est du côté de Laurent Sainte-Marie.
Tout à fait. C'est donc ce dimanche 28 juin de 9h à 13h. C'est vraiment donc le Secours catholique fête ses 80 ans cette année et c'est vraiment un esprit de fête. Venez, invitation ouverte à tous, partagez un instant de solidarité, de fraternité. Et puis, vous pouvez bien sûr vous restaurer. Il y aura un stand avec de quoi grignoter.
Très bien, on poursuit cet agenda avec le chœur Anima qui se produira à Pau. Alors, c'est de la musique sacrée du monde et c'est ce dimanche.
Oui, tout à fait. C'est au temple, au temple protestant rue Servier à Pau. Musique sacrée du monde pour vraiment être en communion avec tous nos frères chrétiens à travers le monde. C'est donc le chœur Anima qui nous enchantera les oreilles. C'est 15€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Très bien, on termine cet agenda avec la Nuit des Églises et de nombreux événements sont proposés dans le diocèse.
Oui, la Nuit des Églises, c'est donc ce samedi 27 juin. Vous retrouverez les programmes notamment à Orthès, à Morlas et à Haricot-Borde. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'agenda sur le site diocèse64.org.
Eh bien, voilà pour une partie de l'agenda béarnais du diocèse de Bayonne-Lescaret au Laurent. Il me reste qu'à vous remercier Nathalie Chambon. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescaret au Laurent. Excellente fin de semaine du côté de Bayonne où il doit faire très chaud encore.
Oui, tout à fait. Mais bon, écoutez, on a l'océan qui est pas très loin pour se rafraîchir.
Très
bien. Merci beaucoup, Gilles.
Profitez-en et bonne fin de semaine. Au revoir, Nathalie.
Merci, Gilles. Au revoir.
Présence à Bagnères-de-Luchon. 94 FM.
Et bon appétit avec nous dans un instant direction la vallée des Gaves dans les Hautes-Pyrénées pour découvrir un nouveau lieu de résidence pour les personnes âgées. Ce sera avec Androse Jankovic et ses invités.
Welcome to New York City, ladies and gentlemen. All right. All right. Start spreading the news. All right. I'm living today. I wanna be a part of it. Yeah. New York. New York, these vagabond shoes, they're longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I wanna wake up in a city that never sleeps. Little town blues are
are melting away. I'll make a brand new start of it. Beat old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York.
Come on, give it.
Come on. I wanna wake up in a city that never sleeps.
Présence à Toulouse, 97.9.
Direction maintenant le département des Hautes-Pyrénées et la vallée des Gaves pour découvrir ce nouveau lieu de résidence pour les personnes âgées, Anne-Rose.
Le mercredi 17 juin dernier, l'EHPAD Les Balcons du Haut-Acamar, Argelès-Gazost, a inauguré son CRT, son centre de ressources territoriales. Il s'agit d'un lieu d'accompagnement hors les murs pour les personnes âgées. Le CRT est installé depuis le 6 janvier à la Villa Alico. C'est en plein cœur d'Argelès-Gazost. Pour cette inauguration, l'EHPAD avait mis les petits plats dans les grands. Madame la sous-préfète était présente, ainsi que la directrice de l'Agence régionale de santé qui a donné quelques explications sur les objectifs d'un CRT. Elle a répondu aux questions de Giuseppe Paolucci.
Bonjour, je suis Giuseppe, je suis stagiaire pour Radio Présence. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, donc Mélodie Malpel, je suis directrice adjointe à la délégation départementale de l'ARS dans les Hautes-Pyrénées.
Nous sommes ici à Argelès-Gazost, dans ce centre CRT. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le département, des centres comme celui-là ? Et est-ce que dans le futur, d'autres centres seront ouverts ?
Oui, alors il y avait déjà le centre ressources territoriales de Vicambigore qui est porté par la Fédération gériatrique du centre hospitalier Tarbes-Lourdes et qui fonctionne déjà très bien, qui a été inauguré l'année dernière. Et dans le futur, donc, nous avons lancé très récemment au niveau de l'Agence régionale de santé Occitanie un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour créer un troisième CRT dans les Hautes-Pyrénées. Donc il y a deux secteurs géographiques qui sont pré-identifiés comme prioritaires au regard du nombre de personnes âgées vivant sur ces territoires, c'est le secteur de Bagnères-de-Bigorre et le secteur de Lannemezan.
Et quelle est la vocation pour un lieu comme ça dans le contexte démographique ?
Donc effectivement, les CRT sont vraiment des outils indispensables au regard du vieillissement de la population en France, y compris dans les Hautes-Pyrénées, puisqu'on n'y échappe pas. On a déjà beaucoup de personnes âgées sur le département et on estime que le pic démographique sera atteint à l'horizon 2047. Donc il y aura des personnes âgées qui seront plus ou moins dépendantes et d'autres qui seront très dépendantes. L'objectif, c'est de pouvoir varier les propositions d'offres que l'on peut leur faire pour qu'elles aient le choix de leur lieu de vie dans le futur et que ce soit un lieu de vie qui soit adapté et sécurisé. Donc l'intérêt des centres ressources territoriaux, c'est de permettre le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible, tant qu'elles le souhaitent, en sécurisant par des interventions de professionnels qui viennent de l'EHPAD. C'est un petit peu l'EHPAD hors les murs, hein. On apporte le soutien logistique et professionnel adapté. On essaie aussi de lutter contre l'isolement des personnes âgées parce que surtout dans un département rural et aussi montagnard comme comme les Hautes-Pyrénées, on sait que ça peut être une problématique, notamment avec le vieillissement des aidants en parallèle. Donc l'objectif, c'est de proposer aux personnes âgées qui sont accompagnées par le CRT des actions en collectif, qui peuvent être sur l'EHPAD, mais aussi beaucoup d'actions à l'extérieur, par exemple des sorties au restaurant, des sorties au cinéma, des balades autour du lac, etc. Et il y a aussi des professionnels donc, qui sont des ASG, des aides-soignantes en gérontologie, qui interviennent au domicile une à deux fois par semaine, voilà, pour certains actes et pour aider la personne âgée. On a aussi des infirmières. Et ce qui est important, c'est que le CRT est joignable tous les jours. Et il y a aussi un système d'alarme et d'alerte. Donc même si en fait c'est peu utilisé par les bénéficiaires et les familles, mais ça permet quand même d'être réassuré et de se dire que s'il y a un problème à domicile, on a quelqu'un qui connaît la personne, qui va pouvoir répondre en première intention. Et l'appui aussi de ces centres, mais c'est de pouvoir être en soutien des professionnels libéraux du territoire, donc que ce soit les médecins traitants, les infirmiers libéraux, les kinés, qui œuvrent déjà au maintien à domicile des personnes âgées, mais qui parfois peuvent aussi être isolées ou face à des situations complexes, être un petit peu en difficulté. Donc là, ça va apporter un appui ressource, une coordination de tous ces professionnels sur le secteur.
Parfait, merci beaucoup et bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Et aux manettes de ce CRT, Delphine de l'Étoile, qui est la directrice de l'EHPAD Les Balcons du Haut-Acam, elle nous explique à son tour comment le CRT témoigne d'un véritable changement de culture dans la manière que nous avons en 2026 d'accompagner les personnes âgées. Bonjour Delphine de l'Étoile.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'EHPAD Les Balcons du Haut-Acam. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du CRT Centre de Ressources Territoriales ici à Argelès-Gazost. C'est le deuxième du département, si j'ai bien noté ce qu'a dit la représentante de l'ARS Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ce mot Centre de Ressources Territoriales ? Ça veut dire quoi ?
Alors, le centre de ressources territoriales, c'est un accompagnement à domicile par des professionnels aides-soignants et pour nous, on va dire assistantes sociales, en complémentarité avec les dispositifs d'aide à domicile qui existent déjà pour des personnes âgées et pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile. Donc, en fait, c'est une coordination de l'ensemble des acteurs du domicile pour permettre à la personne de rester chez elle.
Donc, en fait, c'est ce lieu que vous inaugurez aujourd'hui qui est précisément un lieu de ressources. Les personnes sont chez elles, mais viennent ici chercher ce dont elles ont besoin.
Alors l'accompagnement se fait en deux temps, soit à domicile, les aides-soignantes ou l'équipe pluridisciplinaire se rend à domicile et reste à domicile pour un accompagnement assistante sociale, un accompagnement diète, un accompagnement aide-soignant. Il y aura également des temps collectifs qui sont sur le lieu que nous inaugurons aujourd'hui, qui est donc la Villa Alico, qui était une donation à l'époque et qui retrouve son sens. Et donc là, ce sera pour des temps collectifs. Et avec pourtant un objectif derrière d'éducation et aussi de maintien de l'autonomie, de la diététique, des ateliers d'ergo, des espaces de discussion. Donc vraiment en deux temps.
Alors ces bénéficiaires, je crois qu'ils sont une trentaine depuis l'ouverture du CRT ici à Argelès-Gazost en janvier dernier, c'est ça ?
C'est ça.
Ces bénéficiaires, vous les avez repérer ou choisir ou sélectionner, le terme est peut-être certainement pas judicieux, mais comment est-ce que ce sont les collaborations avec des soignants par ailleurs qui vous ont signalé que telle ou telle personne avait besoin de ce dispositif-là ?
C'est exactement ça. Nous avons la chance sur Argelès et la Vallée des Gaves d'avoir un tissu libéral, ouais. Médecin, kiné, infirmière, qui en fait repère à domicile des situations qui nécessitent en fait notre intervention. Le lien est fait ensuite donc nous avec notre médecin coordonnateur qui est la cadre de santé qui se rendent à domicile, qui font ce qu'on appelle une visite à domicile, évaluent le besoin et ensuite mettent en place l'accompagnement du CRT.
L'objectif au fond c'est quoi alors l'accompagnement des personnes, mais enfin dans les discours qu'on a entendu tout à l'heure, on a beaucoup entendu parler aussi de relations humaines tout simplement. C'est ça le modèle en fait.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on vient vraiment en complémentarité, ouais. Des dispositifs d'aide à domicile qui existent déjà, ouais. Qui sont là pour du repas, des toilettes. Nous on est vraiment sur du temps relationnel, du temps de liaison, de rupture de l'isolement social. Donc ça peut être une promenade, ça peut être un jeu de société, ça peut être un massage, ça peut être tout simplement de l'écoute.
Et ça, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui ont la possibilité d'exprimer leurs besoins.
C'est exactement ça. Au moment de la visite à domicile, il y a un bilan qui est fait et voilà. Et nos aides-soignantes s'adaptent aussi. Et là, avec la chaleur, effectivement, par exemple, il va y avoir un peu plus de passage aussi pour repérer les personnes avec la canicule. De dire aussi que le dispositif CRT est gratuit pour les bénéficiaires.
Pour qu'un dispositif comme ça puisse fonctionner, ça veut dire combien de personnes mobilisées au quotidien ici dans la villa Alico à Argelès pour mettre en place tout ce que vous nous expliquez là, Delphine de l'Étoile.
Alors, deux aides-soignantes à temps plein, bientôt une autre qui va rejoindre le dispositif, une assistante sociale à temps plein, du temps de médecin coordonnateur et du temps cadre de santé également, du temps ergo, on est sur, on va dire, une demi-journée, du temps diététicien et du temps psychologue.
L'objectif étant de faire un petit peu du sur-mesure quand même.
Exactement, c'est de s'adapter. C'est pour ça que nous avons des bénéficiaires qui sont accompagnés uniquement par les aides-soignantes ou uniquement par le diététicien ou uniquement par la psychologue ou des fois par les aides-soignantes et la psychologue, par les aides-soignantes plus le diététicien si par exemple il y a une problématique ou un sujet en lien avec l'alimentation et ou la dénutrition.
Qu'est-ce qu'un lieu et un dispositif comme celui-ci nous dit de l'évolution des besoins du domaine médico-social au fond ?
Qu'on doit sortir de nos établissements, hein, qu'on doit aller vers et ne plus attendre que les personnes viennent chez nous, d'aller vers et aussi de respecter ce choix de se dire on reste à la maison mais par contre de façon sécurisée.
Mmh. Et ça change tout.
Et ça change tout.
Ça change tout aussi pour les aidants. Je sais que vous êtes très sensible à la question des aidants.
C'est ça, effectivement, nous rencontrons. Et là, après 6 mois d'ouverture, on a pris, une vague sur les aidants, sur l'épuisement des aidants, qui, je rappelle, pour la plupart, ont le même âge que les aidés. Donc, on est sur une moyenne âge de plus de 80 ans. Donc, qui sont épuisés, qui sont fatigués. Et donc, on souhaite vraiment développer un projet d'écoute et de soutien aux aidants. Donc, quand nos professionnels du CRT sont à domicile, pendant ce temps-là, l'aidant peut aller respirer, peut aller souffler, peut aller tout simplement se reposer peut-être aussi. Et ce dispositif vient en complémentarité de l'accueil de jour, où là nous accueillons à la journée. Mais ça permet de faire du lien. On vient travailler aussi sur la rupture entre le domicile. J'étais à domicile, tout allait bien, j'étais en pleine forme et aujourd'hui je me rends compte que j'ai besoin d'aide. C'est une rupture et on vient travailler sur cette rupture.
En fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun dispositif qui se suffit vraiment à lui-même. Tout ça, c'est un tissu en fait. Ça marche si les professionnels de santé collaborent en fait.
C'est ça, tous et tous. Aussi bien les aides à domicile que les libéraux, si tout le monde va dans le même sens. Et c'est une réelle chance sur Argelès et la vallée des Gaves.
Alors ce CRT ici qui ouvre ses portes, qui a ouvert ses portes déjà à Argelès pour la vallée des Gaves, comment on peut expliquer qu'il n'y en ait pas davantage, qu'il n'y en ait pas plus ? Est-ce que ici c'est un modèle pour d'autres territoires ? En fait, qu'est-ce qu'il faut sur un territoire pour qu'un dispositif comme ça puisse voir le jour ?
Alors en fait, c'est un dispositif qui est entièrement financé par l'ARS. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Madame Malpel. C'est une réponse à un appel à candidature. Donc les appels à candidature se font progressivement, donc le premier survit, nous le deuxième, et donc là effectivement un second appel à candidature qui va s'ouvrir sur notre territoire. Donc en fait c'est une réponse à un appel à candidature.
Donc pour vous c'est du travail en plus, mais on a compris aussi que c'était une aventure humaine qui apporte beaucoup. Hein.
Ça, et qui vraiment change la vision de l'EHPAD, et de dire on a tout un tas de professionnels et de compétences qu'on peut mettre à la disposition du territoire. Et ça c'est vraiment novateur. Avant l'EHPAD restait refermé sur lui-même.
Ça ne veut pas dire que les EHPAD vont fermer leurs portes.
Absolument.
Et que le modèle que vous présentez aujourd'hui est le seul modèle d'avenir, mais c'est un des modèles dont on a besoin face au contexte aussi démographique qui se profile.
C'est exactement ce que disait effectivement Madame Malpel, au regard là de la vague qui va arriver sur le vieillissement de la population, le niveau de dépendance. L'EHPAD restera aussi une des solutions pour accompagner nos aidés dans les meilleures conditions possibles, avec l'avancée en âge, la perte d'autonomie et les troubles cognitifs.
Alors, une dernière question, Delphine de l'Étoile. On a entendu aussi dans les présentations des équipes de soignants qui travaillent ici au quotidien, une émotion absolument incroyable, qu'on soupçonne peut-être pas de l'extérieur, parce que peut-être qu'on est un peu exigeant quand on est enfant de parents en EHPAD ou accompagné. Ça quelque part, ça fait du bien, c'est rassurant. Est-ce que c'est comme ça tous les jours? Et qu'est-ce qui fait que, eh bien, ici, dans cette EHPAD, dans cette structure EHPAD des balcons du Haut-Acam, eh bien, il y a cette atmosphère qui fait que les soignants ont l'air heureux? Ça, c'est un peu nouveau. On n'a pas l'habitude d'entendre ça.
Mais merci. Effectivement, en fait, les professionnels sont effectivement très fiers. Ouais. Et là, aujourd'hui, elles avaient vraiment à cœur. Et l'émotion qui était là aujourd'hui était vraiment spontanée. Et de participer à l'ouverture aussi d'un service dans la vie d'un soignant sur un EHPAD, ça n'arrivait jamais. Un EHPAD, on rentre aide-soignante à l'EHPAD, on finit à l'EHPAD. L'ouverture d'un service, d'un nouveau service ouvert vers l'extérieur, mais quelle aventure! Et voilà, et elles ont participé et elles participent aujourd'hui. Et voilà, et leur émotion a traduit aussi la fierté qu'elles ont d'accompagner ce nouveau service.
Voilà. Et ça veut dire aussi qu'il y a de l'avenir et il y a des métiers dans ce domaine-là.
Exactement.
Merci beaucoup, mais Madame de l'Étoile.
Merci à vous.
Radio Présence à Toulouse. 97.9.
Voilà, et merci aussi à Anne-Rose Jankovic. Nous étions dans le département des Hautes-Pyrénées, nous étions dans la vallée des Gaves. On va y rester dans le département des Hautes-Pyrénées, puisqu'on va aller on va parler des tablés de Vic-en-Bigorre. L'objectif des tablés, c'est de rendre populaire la grande cuisine avec la présence de grands chefs. C'est pas moins de 3000 festivaliers qui sont attendus dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, dans cette petite ville qui s'appelle Vic-en-Bigorre. On en parle dans un instant avec Anne-Rose Jankovic et les organisateurs. Pour le moment, quasiment 12h27 sur les pendules de Radio Présence. Avec un peu d'avance, on fait un point sur l'actualité régionale avec Clémence Roux.
Bonjour à toutes et à tous. La France a connu hier sa journée la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1947, effaçant le record qui avait été établi la veille mardi selon Météo France. Ce jeudi, les mêmes départements restent en vigilance rouge canicule, la Haute-Garonne, le Lot, le Gers, le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Ces dernières devraient en revanche rejoindre les départements de l'Aveyron et de l'Ariège placés en vigilance orange dès ce soir. Face à une canicule d'une intensité et d'une précocité exceptionnelle, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures d'urgence destinées à soutenir les exploitations agricoles touchées par les fortes chaleurs. Parmi les premières décisions prises figure l'assouplissement des règles concernant les jachères. Les préfets pourront désormais autoriser leur fauchage dans les zones concernées par des obligations de débroussaillement liées au risque d'incendie. De son côté, le président de la Chambre d'agriculture du Gers, Lionel Candelon-Bonnemaison, estime que cette autorisation arrive beaucoup trop tard. Il rappelle qu'une demande en ce sens avait été formulée il y a 2 mois par la Chambre d'agriculture et la coordination rurale du 32. La centrale nucléaire de Golfech a été mise à l'arrêt en raison de l'alerte rouge canicule. Déjà à l'arrêt depuis le mois de mai en raison d'opérations de maintenance, le réacteur numéro 1 a été rejoint par le deuxième, coupé à titre préventif. Cette décision a été prise pour ne pas que l'eau rejetée par la centrale n'aggrave la hausse des températures déjà significative dans la Garonne, une manière de protéger la faune et la flore locale. Le risque d'incendie atteint un niveau inédit en Haute-Garonne. Placé en alerte maximale, le département renforce ses consignes de sécurité face à la chaleur extrême et à la sécheresse persistante. Hier, la préfecture a décrété la vigilance rouge pour les feux de forêt. Ces derniers jours, d'importants moyens ont été déployés pour faire face à plusieurs feux de chaume et de végétaux, dont un impressionnant au nord de Toulouse mardi en fin de journée. À partir de demain, 70 élèves passeront leurs épreuves de brevet dans le monastère de Trie-sur-Baïse. Le maire de la commune du Val d'Adour, Jean-Pierre Grasset, a annoncé la mise en place du dispositif hier dans la journée. Certes, les températures caniculaires jouent un rôle important dans cette décision, mais ce sont avant tout des travaux sur les réseaux électriques du collège qui empêchent le bon déroulement des épreuves. En effet, avec des volets fermés et sans lumière, difficile de remplir sa copie. Enfin, après des semaines très mouvementées dans le petit village d'Enac dans le Lot, tous les élus qui siégeaient encore au conseil municipal élu en mars dernier ont présenté leur démission. Cette décision collective a été annoncée lundi soir lors d'une réunion publique exceptionnelle organisée dans la salle des fêtes où une centaine d'habitants étaient présents. De nouvelles élections municipales vont être organisées sous 3 mois pour relancer la vie démocratique locale. D'ici là, l'appel à de nouveaux candidats a été lancé pour constituer une, voire plusieurs listes.
Voilà, merci à Clémence Roux, retour de l'info à 13h sur notre antenne avec l'actualité nationale et internationale. Allez, dans les prochaines minutes, on va prendre un peu de fraîcheur, direction les Pyrénées, avec Anne Lasserre. À chaque semaine, elle sélectionne un ouvrage et un auteur qu'elle nous présente sur notre antenne. Ce sera aux alentours de 12h45. Mais pour le moment, eh bien, on va parler des tablés de Vic-en-Bigorre. Vic-en-Bigorre, c'est une petite ville qui se trouve dans le nord du département des Hautes-Pyrénées. On en parle avec Anne-Rose Jankovic et les organisateurs. Enregistrement réalisé il y a quelques jours maintenant.
Radio Présence dans le Grand Toulouse 97.9.
Et la suite de cette émission, c'est avec vous, André Jankovic, et votre invité.
Oui, on va parler des Tablées de Vic, un rendez-vous qui aura lieu du 25 au 28 juin au Hall de Vic en Bigorre. C'est la 11e édition de ce festival qui est à la fois gastronomique et populaire. Et oui, c'est possible. Et nous en parlons avec Virginie Dubertrand, responsable communication du festival. Bonjour à vous, Virginie Dubertrand.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est juste de présenter les choses ainsi, de dire que les Tablées de Vic sont à la fois un événement gastronomique et populaire? C'est ça votre objectif pour ce rendez-vous?
C'est exactement notre objectif, c'est de rapprocher les gens de la gastronomie dans une ambiance conviviale.
Pourquoi ça se passe à Vic-en-Bigorre? Alors pour les auditeurs qui nous écoutent au-delà des Hautes-Pyrénées, hein, Vic-en-Bigorre c'est au nord du département des Hautes-Pyrénées, à un peu moins de 20 km de Tarbes, c'est la porte d'entrée du Val d'Adour, le Madiran est un peu plus au nord. Pourquoi ce festival a démarré il y a 11 ans à Vic-en-Bigorre et pourquoi c'était le bon lieu pour ce rendez-vous?
Alors c'est le bon lieu parce que comme vous venez de le rappeler, on est très bien situé, on est près du Béarn, on est dans le Val d'Adour, on est pas loin du Gers, on est dans les Hautes-Pyrénées. C'est vraiment un endroit décroisé des chemins. L'idée c'est que nous on travaille beaucoup sur notre territoire. On veut mettre en avant le fait qu'on soit ville gourmande, qu'on a un cadre authentique, qu'on est au cœur des Pyrénées et que vraiment on est un endroit à taille humaine pour sa convivialité et tout en mettant en avant le cœur sud-ouest.
Alors on peut dire quand même qu'on mange bien partout en Bigorre et même partout en Occitanie quand même.
Heureusement, oui, on est un département, une région où on a la chance de vivre.
Comment ça va se dérouler exactement ce festival du 25 au 28 juin? Quel public attendez-vous et au fond quelle est la proposition que vous faites à ces festivaliers qui sont quelques centaines voire peut-être même quelques milliers?
Oui, on est à plus de 3000 festivaliers au total. Alors, le festival, il se déroule en plusieurs temps. Donc, nous, c'est du 25 au 28 juin. Le jeudi, c'est un dîner pour une petite quarantaine de personnes avec trois chefs et un accord mets et vins avec les châteaux Montus et Buscassé qui vont préparer un dîner donc en citant avec des chefs du département et d'un peu plus loin. Mmh. Le vendredi et samedi, là, on pourra accueillir jusqu'à 900 festivaliers avec 8 chefs qui seront présents et qui prépareront un dîner en citant. Et le dimanche, on part plutôt sur une ambiance pique-nique guinguette au parc naturel de la ville. Et là, on attend au minimum 200 personnes avec des portions de producteurs.
C'est la 11e édition de ce festival. Au fil des années, est-ce que votre proposition a évolué et est-ce que le public a changé? Les gens viennent d'où?
Alors, ça a évolué, oui, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est la 11e édition. On a évolué de propositions un petit peu pour s'adapter à la demande et à ce que les gens apprécient. On a évolué sur le nombre de chefs, on a évolué sur le nombre de festivaliers qu'on peut accueillir. Le public attendu, ben, on est très heureux de dire qu'en fait, il y a 50% des festivaliers qui sont hors département. Donc on a beaucoup de Toulousains, on a beaucoup de Bordelais, mais aussi, très étonnant et on en est ravis, des Parisiens qui viennent nous rejoindre pour le festival.
Qui viennent exprès de Paris, qui viennent à Vic-en-Bigorre pour le festival,
oui,
les Tablées de Vic.
Oui, c'est ça, qui viennent, alors je pense qu'il y a évidemment pour le festival, mais aussi pour la localisation et pour venir passer quelques jours de vacances sur le territoire.
Oui, parce qu'on imagine c'est un tout, ils ne viennent pas que déguster, il y a une ambiance qui attire probablement aussi.
Oui, c'est ça exactement. On a la chance d'avoir construit un festival qui a son attrait de gastronomie parce qu'il y a quand même beaucoup de chefs, il y a des chefs étoilés, il y a des chefs médiatiques, mais c'est aussi une ambiance populaire et conviviale à laquelle on tient énormément. Et je pense que les gens se servent entre guillemets de prétexte pour venir au festival et pour pouvoir visiter la région et le département.
Est-ce que pour les enfants, il y a une place? Alors, on parle de gastronomie, on se dit qu'a priori, les enfants vont pas trop faire la différence et que peut-être ça vaut pas le coup de leur faire une place dans ce festival, mais est-ce que ça, c'est votre point de vue?
Pas exactement, non. Les enfants sont aussi importants pour nous. On sait très bien que les parents viennent avec les enfants, donc il était important pour nous de mettre un petit accent sur ça. Donc cette année, ils auront la possibilité de faire leur propre sandwich, leur propre tacos avec une personne qui les aidera à choisir leurs ingrédients. C'est eux qui vont mettre la main à la pâte. On leur mettra des jolis tabliers et des toques et c'est eux qui vont s'occuper de faire leur menu. Pour nous, c'est aussi important qu'ils soient conscients de ce qu'ils mangent, des choix qu'ils peuvent faire parce que c'est les futurs consommateurs de demain.
Ah oui, donc il y a aussi un objectif éducatif, pédagogique. ludique.
Oui, exactement, de sensibilisation. Il faut toujours que ça reste ludique pour les enfants. L'idée, c'est que ça ne soit pas une contrainte, mais il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils mangent. Et voilà, si les parents font le choix de venir au festival, c'est qu'ils ont un attrait pour la convivialité, mais aussi pour le bien manger, la gastronomie. Et on se dit qu'il n'est jamais assez pour leur mettre les mains dedans.
Alors, qui dit repas gastronomique dit chef étoilé. Vous avez plusieurs chefs qui vont concocter de bons petits plats pour tous les festivaliers. Qui sont ces chefs et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ?
Alors, on a la chance cette année de recevoir 19 chefs. Les chefs viennent de partout en France, que ce soit de Bretagne, de Toulouse, de Bordeaux. On aura des chefs étoilés. On aura notamment Quentin Pélestor-Verrier, qui vient d'avoir cette année une étoile au Guide Michelin, qui a été élu jeune espoir de la gastronomie. On aura aussi Julien Rasemont, qui a une étoile aussi dans le Gers. Et on a aussi la chance d'avoir Noémie Cadré, qui est de Rennes et qui était une participante à Top Chef de l'année dernière.
C'est marrant
ça,
parce que...
Ça contribue à notre grande fierté.
Habituellement, les chefs cuisiniers, on ne les connaît pas forcément. Et puis, de plus en plus, on a l'impression qu'ils deviennent quand même un petit peu des stars, quoi. On aime bien connaître les grands chefs cuistots, quand même.
Oui, je pense que c'est une chose qui a évolué depuis un certain nombre d'années. On commence à savoir qui se cache derrière les cuisines. Et c'est vraiment une bonne chose de savoir l'ampleur du travail qu'ils établissent chaque jour. Il y a eu la médiatisation grâce à des émissions de cuisine, mais aussi c'est bien que les gens, quand ils s'assoient au restaurant, se rendent compte de qui est là. Et la relation peut être un peu distanciée parce qu'il y a tout le service et tout ça. Et donc c'est bien qu'ils viennent au festival pour rencontrer les chefs qui rencontrent en direct sur le stand.
Et les chefs sont disponibles pendant le festival. Enfin, on imagine qu'ils sont quand même dans le tourbillon du travail à faire, hein, parce qu'il faut bien qu'ils nourrissent ces milliers de festivaliers. Mais est-ce qu'ils se rendent disponibles au public pour répondre aux questions, pour casser un petit peu cette distance, comme vous dites ?
Exactement, c'est vraiment le but du festival, c'est-à-dire que chaque festivalier est invité à se rendre au stand pour récupérer une des portions du menu, et c'est le chef directement qui l'aura préparé et qui échange contre un petit ticket. Et l'idée, voilà, c'est de créer un moment de rencontre, un moment de discussion. Alors évidemment, on ne peut pas dire qu'il a pu discuter avec les 900 festivaliers pour chaque portion, mais il y a toujours un moment d'échange où voilà, on le voit travailler, on voit la portion se construire, qu'on vient récupérer, et c'est toujours un moment qui est très agréable pour le festivalier, mais aussi pour le chef qui voit en direct le client final de son travail.
Oui, et puis 19 chefs, ça veut dire venus d'un petit peu partout en France, c'est-à-dire que chacun vient avec son style, sa patte, si je puis dire.
Sa cuisine, exactement. Voilà, avec ses produits fétiches, avec une portion qui est créée de temps en temps pour le festival. Voilà, je repars sur Noémie Cadré, qui est une spécialiste de la cuisson au barbecue, qui samedi nous fera quelque chose qui sera préparé sur le bras zéro en direct pendant le festival.
Vous nous faites rêver. Alors, chef cuisinier, chef étoilé, et puis parrain aussi, puisque chaque année, les Tablées de Vic ont un parrain. Cette année, c'est le pâtissier Jean-François Feuillette qui sera donc parrain de cette édition 2026. Pourquoi lui ?
Oui, exactement. Ça sera donc Jean-François Feuillette qui sera là, qui sera présent sur le samedi et dimanche. Pourquoi lui ? Parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne formation de pâtissier, qui sait vraiment de quoi il parle sur la qualité des produits. Il ouvre de plus en plus de pâtisseries en France. Il en a plus d'une centaine. Il est en train de s'expatrier à l'étranger. On trouvait que c'était un bon représentant pour montrer la vivacité de la profession. On aura aussi sur le vendredi un chef particulier invité qui nous fera une masterclass et qui sera là le vendredi soir. C'est Oscar Garcia qui nous fera le plaisir de venir pour une énième fois sur le festival.
Voilà, c'est bien de savoir qu'on ne mange pas que de la charcuterie en Occitanie aussi.
Non, du tout. On est très gâtés.
Alors, vous nous avez parlé de menus au fil des jours. Alors, de 62 euros le jeudi à 36 euros, ça c'est les menus pour le vendredi et le samedi. Et puis, le pique-nique, je crois que c'est autour de 20 euros, un peu plus de 20 euros. 22 euros. Donc, ce sont des prix accessibles pour des repas gastronomiques, mais c'est quand même un festival auquel on ne vient pas seul. On vient en famille, on vient entre amis. Enfin, tout ça, c'est un coût dans la conjoncture actuelle, avec en plus le coût du carburant hein, pour les festivaliers qui viennent de loin. Vous misez cette année encore sur la bonne participation du public. Comment vous expliquez que dans ce contexte économique, justement, eh bien, quand il faut faire un choix de dépenses, eh bien, le public fasse le choix de la bonne bouffe? C'est quand même pas si évident. Et puis, ils ne sont pas tous experts en gastronomie.
Je pense que la question et la réponse, vous venez de la dire, en fait, je crois que malgré la conjoncture, la chose qui rassemble, c'est le bien manger, c'est le moment convivial, et ça, les gens sont prêts à faire encore un effort pour ça, et je pense que notre festival y répond complètement. Oui, il faut faire un effort, les gens se déplacent et on en est vraiment chanceux, on en est ravis. Et je pense que voilà, le moment que les gens choisissent par-dessus tout, c'est de passer un moment avec sa famille, avec son conjoint, pour passer un moment convivial. Et alors, on sait que les 36 euros peuvent être quand même un budget, mais ce qu'il faut être conscient, c'est que ce menu qui est proposé sur le vendredi et le samedi, notamment si on va le chercher dans un restaurant, clairement, il sera au-delà du 100 euros. Voilà. Nous, on travaille beaucoup sur l'accessibilité du prix. Le rapport qualité-prix, il est très important. Et je pense que les gens, s'ils reviennent, c'est aussi pour ça.
Les tablés de Vic, ça se passe à Vic-en-Bigorre, au hall de Vic-en-Bigorre, du 25 au 28 juin prochain. C'est la 11e édition de ce festival. Il reste quelques places, je pense, mais c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, puisqu'il faut réserver sa place, hein, c'est bien ça?
Oui, exactement. On a déjà notre dîner du jeudi qui est complet. La billetterie est en ligne. On vous invite à aller sur notre site lestablésdevic.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations sur les dîners, les chefs qui seront présents, les menus. Et on vous invite à vite vous dépêcher sur la billetterie parce que ça se remplit.
Merci beaucoup Virginie Dubertrand d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce rendez-vous gastronomique et populaire dans le nord du département des Hautes-Pyrénées. Je rappelle que vous êtes la responsable communication de ce festival Les Tablés de Vic.
Merci.
Merci à Anne-Rose Jankovic, voilà, qui a réalisé cet entretien, il y a quelques jours, hein, voilà, pour les réservations. Et c'est indispensable, donc, de réserver, de se connecter sur le site internet. Nous étions à Vic-en-Bigorre. C'est une petite ville qui se trouve au nord du département des Hautes-Pyrénées. Allez, dans un instant, reste dans le département des Hautes-Pyrénées. On va prendre un peu d'altitude et de fraîcheur avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. C'est Anne Lasserre qui nous rejoint.
First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. Oh,
Radio Présence à Figeac 97.7.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Nous avons une exclusivité ici, c'est la machine à remonter le temps. Voilà, on la bichonne, on veille sur elle, on la rénove, voilà. Car vous dites que vous aimez le 19e siècle et je finis vraiment par le croire. Hein. Les récits que vous avez choisis, le récit d'ailleurs que vous avez choisi cette semaine a été publié en 1893.
Oui, un ouvrage qui s'intitule « Carnet de courses dans les Pyrénées » réunit des récits qui racontent des ascensions, des excursions qui ont été faites à la fin du 19e siècle et c'est effectivement l'un d'entre eux que j'ai retenu, Philippe.
Et ces récits avaient pour but de donner envie aux futurs lecteurs de parcourir les Pyrénées, de faire des adeptes, de recruter de nouveaux camarades d'excursion.
Et voilà, et oui. Et alors on peut lire « Gentes dames et demoiselles, c'est à vous que nous nous adressons, chaussez le brodequin à clous ou la sandale
». Voilà, c'est encore l'époque où beaucoup gravissent les sommets à cheval. Voilà.
En cette fin du 19e.
On prend cette machine, on l'a réglée, 19e siècle, 1893. Nous partons donc dans les Pyrénées.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
En 1893, la Société des excursionnistes Tarbé publie 35 récits d'ascension, d'excursion dans les Pyrénées. Ce sont souvent des pyrénéistes d'occasion, profitant d'une journée de repos pour gagner la montagne. Le tout nouveau chemin de fer a aboli les distances et l'on peut, l'espace d'une journée, abandonner la tenue de ville pour celle du montagnard. L'un de ces récits s'intitule « Une nuit à la Queba d'Arbi ». L'ascension a lieu en août et le récit commence par un dialogue entre deux personnes. Découvres-tu quelque chose ? Je ne vois absolument rien. Crions un peu. Ouais ! Chut, écoutons. Pas même d'écho. Cependant, récapitulons. Nous étions à 4h30 du soir à Grougne-Pourré, à 6h10 à Boulest. Il est 6h57 exactement. Je suis sûre que nous avons franchi le ruisselet qui se jette dans le Labasse et nous devrions approcher d'Arbi. Ah, maudit brouillard ! Et la boussole ? Pas facile de s'en servir, mon cher. Voici bien l'ouest, mais sur une distance de 4 ou 5 mètres seulement. Avec les erreurs inévitables, tant de fois réitérées, nous pouvons très rapidement dévier à 90 degrés de notre route. Bah, nous n'avons point franchi le Labasse et nous avons monté. Nous sommes bien dans la direction générale ouest. Voyons, aide-moi à vérifier sur la carte car il commence à faire sombre. Du ruisseau, versant sud du col d'Uziou jusqu'à Arbi, 500 mètres environ en projection, n'est-ce pas ? 700 mètres au grand maximum en montée raide. Temps nécessaire de 20 à 25 minutes. Je sais bien que dans le linceul de vapeur compacte, on peut aisément se fourvoyer. Et pourtant, et si le berger n'est plus à Arbi ? Ceux de Boulest nous ont affirmé l'avoir vu encore cet après-midi. Il ne s'est pas envolé, lui et son troupeau. Crions une autre fois. « Ouais ! » Un chien, il me semble avoir entendu aboyer par en bas. « Oui, certes. Descendons. Je m'explique. » Nous allions assurément trop haut sur le versant. Ah, je distingue des vaches et des moutons. La Queba n'est pas loin, gare aux chiens. D'ailleurs, voici le berger. C'est le dialogue que nous échangeons au crépuscule d'une soirée d'août, à travers un brouillard intense qui nous avait surpris dans le vallon supérieur de la Basse. Ce vallon de la Basse, resserré entre les pentes blanches du Gabizos au nord et les déchirures du pic d'Aroubert au sud, atteint vers l'ouest le col de Taousseia, limite des Hautes et des Basses-Pyrénées. Il fait communiquer la vallée d'Azun, en amont d'Arins, avec la plaine de Soussouéou, dans les quartiers d'Ossau. Nous avions compté d'abord coucher à l'usine d'Ar, de l'autre côté du col, visiter le lendemain le lac d'Artoust et revenir soit par Erana et les eaux chaudes, soit par Lurdé et les eaux bonnes. Puis, les difficultés de la marche grandissant avec la brume, nous nous étions simplement assignés comme gîte la Queba d'Arbi, la dernière cabane de ce côté-ci du col. Et nous avions failli la dépasser, nous élevant plus qu'il n'aurait fallu sur la montagne de l'Ouesque. Dieu sait combien de temps nous aurions erré sans ces aboiements perçus sous nos pieds. Aussi, Vous pouvez comprendre avec quelle effusion de joie nous accueillons le berger qui, contenant son chien, paraît d'abord tout ahuri de notre présence. La Keba d'Arbi est une hutte en schiste brun, superposée à sec et dont la base est un rectangle de 3 mètres sur 2 avec une hauteur un peu moindre que 2 mètres. La Keba a été bâtie sur un petit plateau gazonné et parsemé de gros blocs tombés des monts. Attenant à la Keba vers l'est et clôturé de rochers avec une barrière de rondins, un parc à bestiaux où vaches et moutons sont couchés, taches roussâtres sur fond sombre. Tandis que deux chèvres, agitant leurs sonnettes, vont et viennent, pareils à des fantômes encornés. Nous entrons en nous courbant, apercevant à droite le foyer qu'un mur de refend peut élever sépare de la couche, jonché de branchages frais. Pas de cheminée. La fumée s'échappe à travers les interstices de la construction, noircissant le haut de suie luisante. Suspendu sur le feu, un chaudron. Au mur, quelques hardes, un parapluie marron déteint, un vieux fusil à un coup. Par terre, des ustensiles. C'est là que nous allons passer la nuit. Le repas du berger se composait de touri, potage rudimentaire d'oignons frits au beurre dans la poêle et bouilli ensuite avec du lard, du sel et des tranches de pain. Et voilà comment une excursion commencée à Reims, dans les Hautes-Pyrénées, se termine dans une cabane de berger, tant le brouillard est intense. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « Carnet de courses dans les Pyrénées », ouvrage publié par les éditions de la Découvrance en 2005.
Voilà, le repas des bergers était alors bien frugal et peu varié à l'époque. De l'eau dans laquelle bout un morceau de lard est versé sur du pain ou une soupe au lait.
Et oui, alors on comprend que le berger est tout heureux de partager les provisions des deux excursionnistes parce qu'eux, ils ont du saucisson, des œufs durs et du fromage.
Ouh là là.
C'était la fête.
Ces bergers gardent un beau troupeau, 142 brebis et agneaux, 15 vaches et 2 chèvres.
Oui, alors les animaux passent la nuit dans le parc attenant à la cabane et le berger précise que le chien n'est pas là tellement pour garder le troupeau mais pour faire fuir la nuit les animaux qui pourraient s'approcher.
Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Ah oui. Pour cette dernière rencontre de la saison, vous nous rappelez habilement que l'on n'est jamais trop prudent en montagne.
Et oui, ce n'est pas parce que c'est l'été que tout danger est écarté. Le brouillard intense peut empêcher de se diriger, comme on le voit dans le récit fait par ces deux excursionnistes.
Voilà, exactement. Le brouillard, voilà, il n'y en a pas aujourd'hui. Merci encore, Anne Lasserre, puisque c'est la dernière chronique de cette saison. Voilà, on est parti en septembre, je me souviens. On dirait que c'était hier. Oui. Et puis, et voilà, 10 mois se sont passés. Et puis, vous êtes toujours là. Et merci beaucoup. Et je crois qu'on repart pour une autre saison.
Mais avec grand plaisir. Philippe.
À partir de septembre, et comme on a un petit peu dit il y a quelques semaines, on va la faire un petit peu évoluer cette chronique, parce que pourquoi pas inviter des auteurs qui sont encore là, des auteurs dont vous lisez des extraits.
Exactement.
Ça serait intéressant d'entendre pourquoi ils ont cette passion sur les Pyrénées, pourquoi ils ont écrit, et puis, voilà, et puis c'est ça aussi la littérature.
Et oui, la littérature est vivante de nos jours, la littérature pyrénéenne.
Pyrénéenne, voilà. Et on ne se lasse jamais de parler de notre beau pays. Merci Anne.
Vraiment désolé pour toi. Tu repars vers tes galères, mais cette fois ça sera sans moi. Personne ne t'attend là-bas. Plus de musique, bar désertique. Avec des fantômes que tu ne vois pas. Coupe légendaire, croisée des mystères. Mais
t'attend là-bas. Plus de musique par désertique. Rien des fantômes que tu ne vois pas. Où les gens d'air, croiser des mystères.
Radio Présence dans la vallée du Lot. 92.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Léon XIV a reçu ce matin les présidents des universités jésuites d'Amérique du Nord. Il a appelé à investir.